Oh là 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 là, Bernard Laporte. Est-ce que Bernard Laporte va subir le même sort qu'Alain Juppé? Je rappelle la consigne de notre président. Tout ministre ou secrétaire d'État qui se présenterait à l'épreuve de la députation et qui serait battu devra démissionner de son poste. Bon, Bernard, une tranche de jambon sur le visage, bien frais, ça devrait te remettre d'aplomb. C'était un message plein d'empathie du PDB en direct du Tarn-et-Garonne, terre d'Ovalie. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Corinne de la Seyne-sur-Mer dans le Var. Mon message s'adresse à Fadela Amara. Je viens d'écouter les infos. Alors, je lui répondrai, puisqu'elle a décidé d'arrêter la glandouille dans les quartiers, que les glandeurs du quartier l'ont bien aidé pour arriver au poste qu'elle occupe aujourd'hui. On a été un bon fonds de commerce. Voilà. En attendant, Madame Amara, les glandeurs, on t'emmerde. Salut, à bientôt. Au revoir. Salut.
Ouais, j'ai pas besoin de 2 minutes, c'est simplement pour dire à France Inter que c'est une honte d'avoir une émission comme celle-là. Vive les grosses têtes sur RTL.
Ouais, bonjour Daniel, c'est Jean-Christophe, chauffeur routier dans la Loire. Je suis en train de me demander si tu deviendrais pas fou. Laisser la parole à des terroristes, oui, des terroristes, c'est le mot, des gens qui voulaient qu'on traite les sans-logis, comment elle a dit la dame ? Humainement. Traiter des sans-logis humainement. Des gens qui doivent pas payer d'impôts, qui doivent pas payer de taxes foncières. Mais ça va bien, Daniel. Tu serais pas en train de virer un petit peu à gauche, toi ? Attention, Daniel. Fais très attention. Non, mais traiter des gens humainement. Ah non, je comprends pas, là. Non, franchement, là, tu me déçois un peu, là, de laisser parler des gens comme ça. Humainement. Allez, va, ressaisis-toi. On va y arriver. Et puis, bonne saison à tous les AMG. Ciao.
Salut Daniel, c'est Tanguy à l'appareil. Bah écoute, il est 19h, je suis en direction de l'Espagne, là, je m'en vais sur Madrid. Madrid est sédentaire, et donc je vais pas pouvoir écouter ton émission ni lundi ni mardi. Mercredi, oui, sûr, mais jeudi, je serai encore en Angleterre, donc tu vois, je vais faire le grand tour d'Europe. Quoi qu'il en soit, je pense très fort à toi, je te remercie pour tes émissions, et puis longue route aux chauffeurs routiers qui ont l'audace de t'écouter. Merci, salut, à plus.
Oh, mais ils sont nombreux, hein, les chauffeurs routiers qui ont l'audace d'écouter là-bas si j'y suis. C'est vrai qu'on a pas mal d'écho. La radio, c'est génial en voiture et c'est génial aussi en camion. Merci de vos messages, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux. Aujourd'hui, un petit coup de blues, même un gros coup de blues. On apprend le décès de Jean-François Bizot, actuel, Radio Nova. Et je me souviens d'une affiche. Il y a pas mal d'années où l'équipe d'Actuel avait suspendu la publication de ce journal et c'était Actuel, c'est fini, je crois. Et il y avait un dessin avec je crois que c'est peut-être un dessin de Pellart, mais les connaisseurs me préciseront les choses, et qui avec une larme au bord de l'œil, et c'était splendide. Et voilà, c'est un regret. Salut fraternel à Jean-François Bizot qui a réussi quand même à être à la fois riche et gauchiste et engagé et turbulent, et il a été en cheville avec son époque, avec son époque, avec son temps, de l'audace, du risque, une belle vie somme toute, quand même un peu trop courte, et finalement, comme il le disait, Jack a fini par gagner. Salut Jean-François Bizot. Aujourd'hui, on va essayer de... on a du mal à comprendre toujours comment fonctionne l'économie chez nous, hein, dans notre pays, et puis sur notre planète. C'est toujours difficile si on n'est pas tombé dedans étant petit. Et on est inquiet, les crises, les croissances, les subprimes, on nous raconte pas toujours très clair. Là, on va essayer... de voir la mer dans une goutte d'eau. Qu'est-ce que c'est voir la mer dans une goutte d'eau ? Ben, c'est notre travail quand c'est réussi. C'est-à-dire, c'est prendre un cas particulier, une destinée singulière, ce qui semble être un détail, et voir ce en quoi ce détail a un caractère universel. Or, pas plus tard que jeudi prochain, le 13, sur Arte, à 22h35, Arte, 22h35, sera diffusé un documentaire qui nous avait beaucoup intéressé, qui s'appelle « Ma mondialisation », et qui se passe en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve, et qui dépeint un petit milieu industriel, quelques entreprises qui fonctionne bien avec des patrons qui sont des patrons, mais qui sont pas forcément des patrons comme on l'entend de nos jours. C'est-à-dire, c'est un peu des patrons à l'ancienne, c'est-à-dire des petits patrons qui peu à peu, sont menacés par la financiarisation de l'économie. Les patrons contre la finance. Pourquoi ? Parce que nous vivons la dictature de l'actionnaire, ce que ne comprend pas forcément l'homme ordinaire, celui qui va, qui vient, comme ça. C'est peut-être des choses qui le dépassent. En tous les cas, je fais partie un peu de ces gens-là le plus souvent. J'ai pas forcément le sens de tout cela. Et pourtant, ça a une importance énorme sur nos vies quotidiennes depuis maintenant, au moins une trentaine d'années. Peut-être qu'aujourd'hui, avec ce nouveau numéro de Là-bas, si j'y suis, jusqu'à 16h, comprendra-t-on tout cela un peu mieux. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de Là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Une catastrophe humanitaire se prépare au nord Niger. Depuis février 2007, le mouvement nigérien pour la justice revendique une meilleure répartition des richesses du sous-sol de l'Aïr, et une enquête sur la radioactivité des sites exploités par Areva depuis 40 ans. La région est devenue une véritable zone de conflit armé. Avec le soutien de la Fondation France Liberté, le collectif Chinaren, Paix et Solidarité pour le Nord Niger, vient d'être créé. Pour tout renseignement, www.chinaren.org.
Bonjour. Je n'écoute pas tous les jours vos émissions, mais ça m'arrive cependant. La preuve, là, à l'instant, je l'écoute aujourd'hui même. Je n'aime pas votre façon d'appeler Daniel, ce tutoiement, Je suis profondément perturbé par ces pleurs sur ces pauvres enfants qu'on expédie, qu'on refuse de garder en France, n'est-ce pas ? Comme si vraiment la France était l'horreur. On profite des enfants pour exploiter, pour faire pleurer dans les chaumières. Mais voyons, que c'est que cette façon de voir.
Salut et fraternité. C'était il y a très 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 longtemps, à l'époque du TSS. Quasi de la préhistoire maintenant. Suite à l'élection de Sarkozy, de nombreuses manifestations eurent lieu partout en France. Et ce fut aussi le cas le 16 mai à Montpellier, le jour de la cérémonie de passation du pouvoir. 300 personnes se réunirent au centre-ville pour exprimer leurs inquiétudes et leur opposition au projet du nouveau président. À la suite d'une petite manif tranquille sur la place de la Comédie, les forces de l'ordre chargèrent, comme elles savent si bien le faire, plusieurs fois et très violemment. Et la BAC de ramasser quelques personnes et de les embarquer au commissariat. Un groupe de 30 jeunes décida alors de s'y rendre, de demander des nouvelles des interpellés, le lieu de leur arrestation et de réclamer leur libération. Pas de chance pour eux. Ils se firent eux aussi chargés et maltraités par la BAC et les chiens, et quelques-uns finirent au poste. Après 48 heures de garde à vue, ils furent renvoyés en justice pour outrage, violence et rébellion. Il y a très très longtemps, beaucoup de gens faisaient partie de ce fameux TSS, tout sauf Sarkozy, beaucoup, beaucoup. Et qui nous donnait toutes sortes d'arguments, des Kouchner, des Langues, des Besson, etc. Ces capitaines des troupes de l'opposition à Sarko ont trahi. Ils sont à la soupe et glougloutent leur plan de carrière. Eh oui, il faut pas déconner. Sarko, on risque de l'avoir pour 10 ans. Il reste de ci de là, sur le champ de bataille des présidentielles, des jeunes dont beaucoup étaient à leur premier combat et qui ont une piètre image du monde politique. Il est important de les souvenir, de les soutenir. Il en va simplement du droit à l'opposition et à la démocratie. Leur procès aura lieu le 12 septembre à 8h30 au tribunal de grande instance de Montpellier. Venez nombreux. C'était Gaston de l'Ardèche.
Salut, c'est Daniel Mermet, la base qui suit avec François Ruffin, la mondialisation heureuse.
Ces fonds de pension ont une attitude qui est à la limite de l'acceptable et ils s'excitent d'ailleurs chaque fois qu'il y a un licenciement ou un plan de licenciement. C'est pour eux, c'est une espèce d'orgasme, c'est fantastique. Donc c'est prendre son pied, tout de suite l'action va monter. Sur le plan humain, c'est inadmissible. Donc pratiquement, il devrait y avoir des lois qui l'interdisent.
Ces grosses boîtes qui ont été rachetées par des financiers, ils ont détruit, à ce que je connais, hein, 1300 emplois. Ils s'en foutent. C'est des requins, si vous voulez.
Qui parle ? Qui vient de parler ? Quelles sont ces deux voix ? Celle de licencié, de récemment licencié, celle de syndicaliste, celle d'intellectuels anti-libéraux. Eh ben non, pas du tout. Les deux voix qu'on vient d'entendre sont celles de patrons, des patrons français, de PME, tout à fait actifs, tout à fait patrons et tout à fait contemporains. Ça manquait à notre... à nos reportages, à notre travail depuis de nombreuses années. Là-bas, si j'y suis, c'est attaché à décrire, essayer de raconter les effets de cette révolution conservatrice, néolibérale, et les effets, c'est-à-dire les effets dans la société, les effets sur l'environnement. On a moins travaillé, il faut bien le reconnaître, sur l'environnement que sur les effets sociaux, à travers des reportages, justement, sur des plans sociaux, mais aussi bien sur toutes les conséquences dans la vie. Parce que la violence des rapports économiques, évidemment, induit et suscite des violences dans les rapports sociaux, jusque d'ailleurs, probablement, et ça c'est peut-être plus difficile à mesurer, bien évidemment, dans les rapports intimes, dans les rapports de la vie quotidienne, conjugale, familiale, etc. Donc, on s'est attaché à essayer de décrire tout ça. Je crois qu'on a fait notre premier reportage sur un plan social. Ça date en 1992. Ça fait donc bien longtemps. Et l'émission ayant commencé en 89, c'est un souci qu'on a eu assez rapidement. Mais jamais, jamais du côté des patrons. Enfin, la critique des patrons. Est-ce que les patrons critiquent ? Alors quand on les entend dans notre radio par exemple, non bien sûr ils sont là pour défendre, on a l'impression qu'ils sont tous d'accord ces patrons, il y a une voix et puis ils sont tous du petit cordonnier du coin jusqu'au patron d'un super groupe international, c'est tous les mêmes, si bien qu'on finit par très bien comprendre quel est ce monde des patrons. Voilà pourquoi, avec François Ruffin, on est allé en Savoie. On est allé à Cluses, dans la vallée de l'Arve, où on se livre au décolletage. On va découvrir ce que c'est que le décolletage. Et on va découvrir cette région, une région industrielle, qui marche bien, qui a bien marché, qui est l'histoire d'un capitalisme paternaliste, comme on disait, et qui, peu à peu, ça vient d'être suggéré dans une des phrases qu'on vient d'entendre, a été, peu à peu, gagné par les fonds de pension, ces fonds de pension qui achètent des entreprises, qui investissent dans un certain nombre d'entreprises, qui licencient et qui coulent. Et c'est donc qu'on va voir le sens de l'expression l'économie financiarisée. Qu'est-ce que ça voulait dire l'économie financiarisée ? Eh bien, on va voir la différence entre l'économie, l'industrie et la financiarisation qui coule peu à peu et qui détruit peu à peu cet autre âge du capitalisme. Dans cette vallée, on va voir capitalisme contre capitalisme au détriment, évidemment, toujours des mêmes. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis.
Ce sont les flammes d'une colère qui viennent embraser le regard de l'épapillement de mes frères, mes copains, tu sais pas trop tard. C'est une joie démesurée de faire les grandes découvertes de nos histoires sans passer, de nos conneries recouvertes. Notre fierté d'être sans haine et de retourner au charbon. Engueulons les gars, faut qu'on s'aime et le chemin sera moins long. Et c'est pas fini, et ça continue. Vas-y patron, c'est moi un rêve, je te le paierai en fou rire. Il n'est pas l'heure de la trêve, on laissera pas le point mourir. C'est on fait la coladerie. C'est pour préparer nos combats.
C'est parce qu'on sait pas trop quoi dire.
C'est parce qu'on sait pas trop quoi dire. À part regarder plus en bas. Et si on mélange nos pleurs dans une mer d'amitié, c'est qu'il nous reste un peu de peur et qu'on a su la partager. Quand de sublimes engueulades une allumée le petit jour, c'est la honte de mon malade. Et c'est pour ça qu'on court en cours. Et c'est pas fini et ça continue. Vas-y patron, c'est moi un rêve, je te le paierai en fourri. Il est pas l'heure de la trêve, on laissera pas le point mourir. Aimez les autres, pas besoin de vous imiter. Parce que je vous aime, c'est vous mes autres. Quand la folie dévaste tout, on voyage par petits bouts de phrase. Un tour de terre en rien du tout, c'est notre cafard qu'on écrase. Quand on prend le temps de s'asseoir au comptoir, t'es quand même content. On se dit que ça s'appelle espoir. On se dit qu'on a encore du temps. Et que c'est pas fini, et que ça continue. Vas-y patron, c'est moi un rêve, je te le paierai en fourrir. Il est pas l'heure de la trêve, on laissera pas nos points mourir.
Nous allons maintenant nous rendre à la Cluse, en Haute-Savoie, parce que là-bas s'y passe un problème.
Vous connaissez le nom d'école, là, autour de nous ?
Oui, ouais, bien sûr, oui. Il y a l'école de Châtillon, le pic de Marcelly, Nancy-sur-Cluse, le Bargy, un peu plus loin, la Pointe Percée, le Chevry, enfin voilà.
Donc quand on dit Cluse, on pense plutôt ski, on pense c'est là où on met les pneus neige pour monter vers les stations en hiver. Mais vous, vous répondez industrie ?
Ah oui, dans la vallée, c'est l'industrie qui est prédominante, c'est-à-dire qu'il y a encore 12 000 salariés qui travaillent dans l'industrie de pointe, qui s'appelle le décolletage. En fait, c'est un rapport quand même avec les montagnes, puisqu'à l'origine, c'était des paysans montagnards qui, pendant l'hiver, faisaient des petits rouages pour l'industrie horlogère suisse, puisqu'on est à côté de Genève, et après descendaient dans la vallée, descendaient à Genève livrer leurs produits. Donc c'est parce que pendant l'hiver, les paysans ne pouvaient pas travailler à la ferme, les champs, puisque les hivers étaient rigoureux et longs, qu'ils se sont mis à faire un petit peu de sous-traitance, déjà, pour l'horlogerie suisse.
Les stations de ski, l'or blanc, c'est en haut, et l'industrie, c'est en bas de la vallée.
Voilà, c'est ça. Le ski en haut et l'industrie dans la vallée, ce qui fait que globalement la région est assez prospère, quoi.
Donc là, on passe.
Ouais, là, c'est une première zone industrielle. Donc on passe à côté de une grosse boîte qui s'appelait La Clusienne, comme Cluse, mais maintenant qui s'appelle Teleflex. C'est un groupe financier américain qui a racheté. Les zones sont nombreuses parce qu'il y a encore 500 entreprises qui travaillent dans ce domaine d'activité et on dit que c'est la
plus grosses concentrations autour de la même activité qui soient répertoriées au monde, parce que c'est sur un périmètre assez restreint. Toutes les voitures du monde entier, puisque les décolteurs travaillent pour tous les constructeurs automobiles du monde, sont équipées par des pièces qui proviennent de cette vallée. Et chez chaque foyer français, que ce soit en ameublement, en appareillage électroménager, il y a des pièces qui viennent de cette vallée. Alors là, on est dans une zone où il y a eu une forte immigration dans les années 60. Et on avait construit des HLM un peu loin de tout, entre l'autoroute, la route nationale, loin du centre du village. Dans les années 60-70, hein, pendant les 30 Glorieuses, on manquait énormément de personnel, donc les décolteurs allaient chercher cette main-d'œuvre. Là, on arrive devant une société qui était un des fleurons de la vallée, qui a été rachetée par des fonds de pension américains, en fait, qui a déjà à son actif deux plans sociaux.
Donc ça, c'était Autocam. Là, c'est quoi ?
Là, c'est Coterlaz. Alors eux, c'est pareil. C'est une usine qui a délocalisé un petit peu, qui a implanté dans les pays de l'Est, qui a implanté en Chine maintenant aussi. Les deux derniers phénomènes auxquels on assiste, c'est qu'au début des années 2000, toutes les plus grosses sociétés ont été rachetées par des financiers. La principale, c'était Franck Épinard, qui était le fleuron de la vallée avec 1000 salariés, qui a été racheté donc par des fonds de pension américains, revendu 4 ans après avec une grosse plus-value pour les premiers actionnaires, hein, de quelque chose comme 200 millions de dollars. Et par contre, plus d'investissements industriels, et il y a déjà eu deux plans sociaux, et ils sont vraiment en train de mettre la boîte dans le mur. Maintenant tous les voyants sont au rouge et c'est dramatique, quoi. Après, des sociétés, il y a eu Henrico, César Vue Archex, qui ont été vendus à Bank of America tous les deux. Et là, avec l'antériorité, maintenant, on peut dire que toutes ces sociétés qui ont été rachetées maintenant il y a 6, 7, 8 ans, ce sont dans toutes ces sociétés qu'il y a les plans sociaux et les plus gros problèmes. Et les petites structures qui ne sont pas dépendantes du marché automobile ou qui sont restées familiales sont des structures qui tournent plutôt pas mal, quoi.
7-9-30 sur France. Nicolas
Demorand. Entreprise et stratégie à 7h50. Bonjour Brigitte Jean-Perrin.
Si l'emploi ne repart pas en France, c'est plus par manque de politique économique et de réforme de l'État. C'est en tous les cas l'avis du nouvel ami de Guy Carlier, Xavier Fontanet, PDG d'Essilor. Vous allez voir, c'est formidable.
On dit toujours le chômage, c'est la mondialisation. Alors on peut démontrer ça à court terme, mais à long terme, quand vous avez un État qui prend 55% du PIB en impôts, qui met des réglementations qui empêchent de travailler. À ce moment-là, vous gênez la base française, et c'est ça qui crée le chômage.
C'est à cause de l'État et pas à cause de la mondialisation et des entreprises.
L'État français a une caractéristique énorme, c'est l'État le plus gros du monde. Et comme il est gros sur le plan quantitatif, il a généré des réglementations qui freinent.
Comment faire alors pour garder un niveau de protection sociale et le reste ?
Aux États-Unis, notre plus grosse usine, il y a 5 ans, c'était de 1800 personnes. Cette usine a été fermée avec l'accord des syndicats, on a aidé les gens. Je peux vous dire que les gens se replaçaient dans les 15 jours. Et le problème, c'est que c'est le marché du travail. On a un très mauvais marché du travail, mais ce marché du travail, c'est qu'il y a une trop grande réglementation. Et le jour où les Français comprendront que l'État, entre guillemets, Providence, qui se présente comme leur protecteur parce qu'il donne de l'argent, est en fait l'organisation qui crée le problème parce qu'il prend l'impôt, c'est comme si je vous dis, mais chère madame, vous êtes un petit peu palote. Donc je vais vous mettre du sang dans le bras gauche. Évidemment, le sang, je vais le prendre dans le bras droit. Et puis comme il faut que je vive, ben, faut que je prenne au passage. Vous comprendrez que plus je vous en mets dans le bras gauche, ben, plus j'en aurais pris dans le pas droit, et plus vous serez pas l'autre parce que j'en aurais pris. C'est exactement ce qui se passe.
Est-ce que les chefs d'entreprise n'ont pas aussi leur responsabilité ?
Je crois qu'en fait, il faut que chacun fasse son travail. Le rôle de l'entreprise, c'est de conquérir le monde, devenir leader mondial. Je crois que le rôle de l'État, c'est de comprendre que son problème n'est pas s'occuper de ce que font les entreprises, c'est de se faire un re-engineering à lui. Qu'il revienne dans son État régalien, qu'on ait une excellence au niveau de la justice, de la police, des affaires étrangères, de l'armée, ça c'est évident. Mais il y a des tas de domaines dans lesquels il est rentré dans l'économie, et là il s'est fourvoyé.
Voilà, c'est Xavier Fontanet, PDG d'Essilor et président du comité d'éthique. D'éthique, c'est pas l'éthique. Ah, remarquez, c'est un peu l'éthique, oui. C'est l'éthique du MEDEF au micro de Brigitte Jean-Perrin. Alors quand même, bon, on comprend, vous avez compris, c'est la réglementation. Il y a trop de réglementation dans cet état archaïque, c'est français, archaïque. Et tout ça, c'est à cause de l'État, etc. Et ça, c'est la voie donc de l'éthique du MEDEF. Eh bien, nous, on a quand même trouvé des patrons, et pas des moindres, qui ne sont pas d'accord avec ce point de vue, mais alors absolument
pas du tout, qui ont une autre analyse qui est assez proche de celle de Gilles Perret qu'on vient d'entendre. Mais lui, vous le soupçonnez, parce que vous dites « Oh, bon, c'est un cinéaste, il fait un documentaire. Ouh là là, ça va être un gars qui va aux réunions d'attaque, ça, si ça se trouve. » Et alors, bon, d'accord. Alors voilà, Gilbert Benet. Qui c'est Gilbert Benet? Ben, c'est un de ses patrons du décolletage, du tronçonnage décolletage. C'est une vieille histoire dans cette vallée. Il a hérité de son grand-père, puis de son père. Il est à la retraite maintenant. Il a des responsabilités dans le syndicat national du décolletage. Il est devenu monsieur statistique dans ce syndicat national du décolletage, c'est-à-dire du côté des patrons. C'est pas du tout, je n'y ai pas peur, c'est pas des ouvriers, c'est des patrons. Et il est à la retraite maintenant, et puis un jour, il a cédé son entreprise à un industriel du coin, Gilbert Benet.
Ça, c'est la porte de l'usine de mon grand-père qui a été faite en 1930. Je l'ai récupérée, donc il y a ses initiales, Benet Ferdinand.
Ferme la porte ici, vous.
Bon, on le suit ouverte.
Et comment vous avez vu le secteur du décolletage évoluer depuis ces dernières années?
Ces dernières années, si vous voulez, on a assisté à une évolution de la structure du capital. Hein, c'est-à-dire que de 1900 à 1990, tout le capital des entreprises sera structure familiale. Et puis en 91, on voit arriver les premiers capitaux étrangers. Alors ça, je connais bien, parce que le premier qui a été racheté, c'est un de mes autres beaux-frères, qui avait une belle boîte, qui a été racheté. Il y avait 60%, c'était des Libanais, et 40% le Crédit Agricole de Lyon. Et puis trois ans après, c'était une boîte qui tournait, qui faisait du bénéfice. Trois ans après, ils étaient en règlement judiciaire.
Et comment vous expliquez ça, alors?
Parce qu'ils sont venus, ils ont sucé la boîte, et puis c'est tout. C'était des boîtes qui faisaient du bénéfice. Hein. Ils arrêtent d'investir, ils font remonter les bénéfices à la holding, puis après, terminé. Et puis ils s'en vont. Et puis après, vous avez Dapta Malinjou, le plus gros décolleteur, en 93, qui est repris par un groupe Iéna Finance et il rentre en bourse. Et puis, il est en règlement judiciaire en 96. Vous voyez, ça a pas mis longtemps, 3 ans. Et c'était une des plus belles boîtes, un des plus gros décolleteurs européens, à un moment.
Et il était en bonne santé en 93, quand il est repris?
Oui.
Donc, la boîte de vos frères est reprise en 3 ans, elle est liquidée par les financiers.
Oui.
En 3 ans, le numéro 1 du décolletage, il est repris par des financiers, on va dire. Ouais, en 3 ans, il est dézingué aussi.
Il est déglingué. En 98, on voit arriver les groupes américains. Hein. 98, donc. Fairchild USA reprend Technico, il y a 140 salariés, c'est tout bouffé, il n'y en a plus.
Ça y est, c'est mort.
C'est mort. Autocam reprend Bouvra, il y avait 2 sites Bouvra. Ils ont fermé un site, ils ont licencié 83 personnes. Elite reprend EBA, ça a l'air d'aller à peu près. Timken reprend Bamarec en 2001. L'entreprise avait à peu près 120 personnes, ils sont 80 maintenant. Un groupe suisse reprend Jean Perret, c'est le gars dont je vous parlais qui avait 120 personnes, ça a été liquidé tout de suite. C'est mort. Et Bank of America reprend César Varché, bon c'est en 2004, c'est des belles boîtes, c'est encore pas mort. Autocam, Franck Épinard, ils ont perdu 300-400 salariés. Hein. Puis là, ils prévoient encore un truc une vague de 139 suppressions d'emplois. La politique des gens du coin, c'était de construire leur société pour la céder à leurs enfants, leur céder un capital. Alors que ces gars-là, ils viennent, eux, c'est du résultat tout de suite, et ils s'en foutent, ils foutent le camp, ils s'en foutent des salariés et tout. Moi, j'ai un gars qui est parti en retraite, ça faisait 43 ans qu'il travaillait chez moi. Bon, quand vous bossez 43 ans avec un type, c'est le jour où il faut le licencier. Vous ne regardez plus dans la glace. Hein. Parce que vous savez, dans les petites boîtes, on a tous la blouse sur le dos. Quand on transpire tous. Hein. Donc ça crée des liens. Hein. On savait comment ça allait dans le ménage. On savait s'il y avait des difficultés, le gars. Eux, ils arrivent, ils ne les connaissent même pas. Ils s'en foutent. Ils traitent des chiffres. Hein. Ils ne voient pas la conséquence humaine à côté. Hein. Enfin, voilà.
Là, c'est un peu un capitalisme sans visage humain. C'est-à-dire que...
Ah oui, ouais. Là, c'est tout à fait... C'est le capitalisme pur et dur, hein, là. On vient, on vide l'entreprise, on dégage les salariés. Alors, c'est le salarié qui coûte cher, donc ils virent le salarié. Ils s'en foutent, ils ne regardent pas si le gars il a commencé sa baraque, c'est le truc. Ils ne regardent pas si le gars a de la famille. Nous, quand on est licencié, on a dit, On l'a expliqué à la fille, elle dit, écoutez, bon, c'est vous, parce que vous êtes toute seule, il y a une mère de famille qui a deux gosses, on ne la licencie pas. Pour moi, c'est un échec, mais enfin, bon, on a essayé de limiter les dégâts, c'est tout. Alors qu'eux, ils s'en foutent, quoi, royalement. Enfin.
Donc, est-ce qu'il y a aussi un souci de respectabilité locale? C'est-à-dire que ouais. Si jamais vous licenciez du personnel, vous allez d'abord recroiser ces gens-là dans la rue, vous connaissez la famille, vous connaissez tout ça?
Oui, ça joue, hein. Ça c'est sûr. Hein. Ces grosses boîtes qui ont été rachetées par des financiers, ils ont détruit, à ce que je connais, hein, 1300 emplois. Le gars qui a racheté, Bank of America, qui a racheté les deux plus belles entreprises, vous savez où il est, le dirigeant qui dirige ces deux groupes-là, ces deux usines-là? Il est à Londres. Alors vous pensez bien ce qu'il s'en fout. Hein. Lui, il tire tout ce qu'il peut au point de vue finance, et après... Hein, il peut, depuis Londres, il peut licencier. Hein, il ne verra pas les gars qui pleurent dans le coin. Ils s'en foutent. C'est des requins, si vous voulez. Hein.
Voilà, Gilbert Benet, patron à la retraite, patron d'une entreprise de décolletage. Il a cédé son entreprise à un industriel du coin. Voilà son point de vue. Voilà son point de vue. Et c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là, parce que vous avez vu un peu les sondages qui sortent ces jours-ci et qui indiquent vraiment que vous, Français, mais dont je fais partie, nous sommes une bande de bourriques archaïques. On essaye de nous intéresser à la sécurité, à l'immigration, aux islamistes barbus qui nous menacent, au communautarisme, au mariage homosexuel, enfin des tas de sujets. Eh ben non, ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'emploi, c'est le chômage, c'est le niveau de vie, c'est la hausse des prix, etc. C'est des trucs comme ça, on ne change pas, quoi. On n'arrive pas à comprendre que il faut s'intéresser à autre chose. Non, on est fixé là-dessus. Alors, et pourquoi le chômage? Oh là là, alors, attendez, ça fait 30 ans qu'on parle de pourquoi le chômage. On vous l'a dit tout à l'heure, c'est parce qu'il y a trop de règlements. Il y a trop de règlements en France. Quand il n'y aura plus de tous ces règlements, pas de charges, pas de machin, et ben hop, ça ira comme en Amérique. Ce sera comme en Amérique. On vire 1300 salariés, en deux semaines, ils retrouvent du boulot. Mais bien sûr, on vous dit ça à l'heure de votre petit déjeuner, et tout le monde gobe ça sans moufter. Eh bien, pas les patrons de ce coin-là, au moins, qui, pour ce qui concerne cette région de décolletage, ont les mains dans le cambouis. Qui parle un peu comme je le fais? C'est Frédéric Lordon. Frédéric Lordon est économiste. Il a pas mal aidé Gilles Perret dans ce film, dont je rappelle le titre, La mondialisation. Et on va voir que c'est un peu, on trouve des patrons un petit peu différents. Nous, à la base, si j'y suis, on trouve des économistes qui parlent un peu différemment eux aussi.
On a l'impression que c'est les plus belles pommes qui sont cueillies dans la vallée et qu'au bout de 3 ans, il n'en reste plus que le trognon, voire seulement les pépins, quoi.
Le passage de fonds de private equity sur certaines entreprises a parfois l'effet d'un nuage de criquet sur le champ d'un agriculteur. Alors là, le but de la manœuvre n'est absolument plus de redresser la boîte, de lui faire retrouver une trajectoire de croissance honnête ou quoi que ce soit. Le but est de réaliser, alors dans des horizons souvent très courts, une plus-value financière directement par le démembrement de l'entreprise et sa revente par partie. Tel est le sort désormais de bon nombre de ces PME de larves, et ça ne leur promet pas des lendemains qui changent.
J'ai l'impression qu'il y a un conflit entre le capitalisme à la papa, et d'ailleurs le capitalisme paternaliste revendiqué comme tel par les patrons du cru, à un capitalisme international et sans visage.
Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, je vous aurais dit qu'il n'y avait pas de conflit entre ces deux formes de capitalisme, parce que l'une ignorait l'autre, tout simplement. Bon, il restait des poches de capitalisme familial et paternaliste par-ci, par-là, dans quelques coins de France et d'ailleurs. Bon, très bien, le grand capitalisme actionnarial, celui du CAC 40, etc., n'en avait qu'une, ça ne l'intéressait pas. Bon. Les choses ont un petit peu changé tout de même, parce que... comme le montre bien le cas de cette entreprise Bontaz, il y a un certain nombre d'acteurs financiers qui se déploient à l'échelle de la mondialisation et qui ont commencé à s'intéresser non plus aux grandes entreprises cotées du CAC 40 ou des grands indices boursiers, mais qui ont commencé à s'intéresser à des PME performantes Et donc voilà que certains des acteurs les plus dynamiques et les plus voraces de la finance déréglementée commence à descendre dans la profondeur du tissu industriel français et à jeter un œil sur quelques sous-traitants performants, sur quelques PME avec des bons portefeuilles de produits, des bonnes technologies, des bonnes perspectives d'innovation, etc. Parce qu'ils sont en train de se dire que ce sont des sources de profit qu'il ne faut absolument pas négliger. Alors là, oui, les deux capitalismes rentrent en conflit. Et ça produit des télescopages assez brutaux, puisque, en effet, ces entreprises qui étaient jadis sous le régime d'un capitalisme plutôt paternaliste et familial, se retrouvent directement confrontées à des contraintes qu'elles n'avaient jamais connues, et qui sont les contraintes de rentabilité de la finance déréglementée internationale. Alors oui, ça fait mal, ça fait mal. Et le fait est que, Dieu sait que le paternalisme, comme système de rapports sociaux, alors s'il y a quelque chose qui mériterait vraiment d'être qualifié d'archaïque, c'est bien ça. Bon. Les fonds d'investissement débarquent et voilà que le capitalisme familial nous semble un havre de paix qu'on se met à regretter. C'est dire la dureté des temps et le cours des choses. Si on en est rendu au point de trouver que le capitalisme familial est une sorte de modèle social, c'est que vraiment ça va très très mal.
Nous vivrons, et l'économie française, et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente.
Georges Pompidou, 1967.
Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Car si ça n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi on se livrerait à ce genre de spéculation et pourquoi on prendrait tous ces risques et tous ces dangers. Nous serons donc en risque permanent. Et le gouvernement en est parfaitement conscient. Son rôle est de diminuer ces risques parfois, mais son rôle n'est certainement pas d'inviter les gens à la paresse en leur créant de nouvelles protections.
Voilà, c'était il y a 40 ans, 1967, la voix de Georges Pompidou, ça annonçait la fin des 30 glorieuses, hein, enfin, qui ont fini en 75. C'est une date approximative, bien évidemment. Mais enfin, au cours de ces 30 glorieuses, l'un des caractères, ça a été qu'il n'y avait pas de chômage. C'est à peu près le plein emploi, même si ça commençait à se dégrader au début des années 70. Et ça n'empêchait pas, c'était pas l'Union soviétique quand même, la France, hein, ceux qui ont connu la France d'avant 75, que s'en souviennent, les patrons faisaient des bénéfices, et même des bons bénéfices. Sauf que la politique ne se fait pas à la corbeille, disait Charles de Gaulle, et c'est vrai que la bourse, la spéculation, c'était tenu en laisse, tenu à l'écart. Ce qui comptait, c'était l'entreprise elle-même, et c'était ce rapport, et on peut dire cet affrontement, bien évidemment, historique entre le capital et le travail, mais le capital productif, le capital industriel. Et puis, il y a eu la domination, peu à peu, et c'est ça qui caractérise la mondialisation libérale, c'est l'hégémonie de la finance sur toute l'activité économique. Nous voilà dans une autre entreprise. On va revenir à Cluses et dans la vallée du décolletage, mais là on fait un petit détour dans la Drôme, à Saint-Vallier. Une entreprise qui s'appelle Céralep, une entreprise qui fait de la céramique. Une vieille boîte aussi qui date des années 20, qui est devenue une filiale d'Alstom, qui a été vendue dans les années 90, qui a été racheté en 2001 par un fonds de pension, et peu à peu les affaires ça a coulé peu à peu. Là, le fonds de pension a récupéré la trésorerie, a cessé d'investir, a chopé la clientèle enfin le carnet de commandes au profit d'une autre entreprise, et puis voilà, tout ça c'était fini. On a failli mettre la clé sous la porte. Or, il y avait là un gars qui s'appelle Robert Nicaiz, qui était le responsable de la CGT. Et il avait un vieil ami qui s'appelle Dominique Herteau et qui, lui, était un patron, et pas n'importe lequel, parce qu'il était l'un des directeurs de Coca-Cola. Et à eux deux, eh bien, ils ont réussi à sauver cette entreprise en créant une SCOP. Aventure pas banale et réponse à vos questions.
J'ai occupé la fonction de directeur des ressources humaines du groupe Olivetti. Ensuite, j'ai été, après différentes postes, mais vice-président de Coca-Cola pour la France, puis PDG de Strafford,
Dominique Arthaud,
bureau pour l'Europe, et PDG de la Brinks pour la France et l'Afrique.
Vous, vous n'étiez pas du tout de Séralep, vous n'avez jamais travaillé à Séralep. Qu'est-ce qui vous a motivé en 2003 pour venir vous proposer, pour filer un coup de main aux salariés de Séralep ?
Tout le monde a à un moment travaillé, je crois que ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère a dû y travailler. En fait, tout le monde a un peu travaillé chez Séralep à une époque. La deuxième chose, c'est que j'avais un de mes meilleurs amis qui s'est suicidé chez Séralep. Il a mal vécu tous les changements et quelques mois avant la fermeture complète, il s'est suicidé dans les locaux de l'entreprise. Moi, ça m'avait beaucoup marqué et à l'époque, j'ai essayé d'aider un peu sa famille et ça m'a rapproché un peu de ceux qui ont voulu se battre pour maintenir Séralep.
Et qu'est-ce qui vivait si mal
Je pense qu'il faisait partie des cadres de la direction et il vivait mal le fait que cette entreprise allait fermer, alors que comme beaucoup, on pensait qu'on pouvait la garder ouverte. Et je crois que comme beaucoup, moi j'ai découvert ensuite, on s'est aperçu qu'on aurait pu faire des tas de choses qui n'ont pas été faites par les anciens actionnaires.
Par exemple ?
Par exemple, en essayant déjà de plus dire on licencie 100 personnes ou 120 personnes ou 300 personnes ou 2000 personnes, mais de dire on a besoin d'économiser tant de milliers ou de millions d'euros et de se dire, eh bien, cet argent-là, on va essayer de le trouver ailleurs qu'en licenciant.
C'est-à-dire qu'il y a comme une routine qui s'est installée où dès que ça va mal, on estime que c'est par les suppressions de postes qu'on s'en sort, ou même quand ça va bien d'ailleurs des fois.
On fait un peu dans la facilité, mais donc on fait des plans de licenciement. De toute façon, c'est quand même à moyen terme une aberration microéconomique parce qu'on perd des compétences et une aberration macroéconomique parce que quand vous licenciez dans l'entreprise A, vous avez des chances que le licencié lui-même de l'entreprise A n'achète plus dans l'entreprise B, qu'ensuite on licencie dans l'entreprise B et on continue et on fait ça depuis d'ailleurs 25 ans.
Vous dites depuis 25 ans ça fonctionne de cette manière-là ?
Oh, ça fait à peu près 25 ans, ça s'est accéléré énormément à la première guerre du Golfe, donc en 1991.
Pourquoi vous citez la date de 91, c'est précis ?
C'est très net. Oui, c'est très net. Je pense qu'au moment de la crise et de la guerre du Golfe, il y a eu un changement. Ça a été un peu chacun pour soi. On a vu une crise énorme arriver en 93. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des milliers de licenciements par jour. Et c'est clair qu'il y a eu un changement. On aurait pu croire que ça s'arrêterait. En fait, on est resté sur cette approche-là et elle s'est dégradée un peu depuis. Et maintenant, on est rentré dans un cycle, comme je vous dis. Alors, le CDI, on ne sait plus ce que c'est. Et puis, les licenciements à la va-vite de gens rentrés il y a beaucoup d'années ou il y a quelques jours, on met tout le monde dans le même sac et on passe tout le monde par-dessus la barrière.
Pour l'usine Over de Dijon, la décision est définitive. C'est le chômage qui attend tous les employés.
L'usine Yoplait d'Ivry doit fermer ses portes au mois de juin. 130 emplois sont supprimés. Près de 2600 suppressions d'emplois sur 4 sites, Sochaux, Mulhouse, Sept-Fonds et Lille. La pilule est amère.
Le jour est vraiment malade aujourd'hui, il est malade de la maladie des profits, je dirais. Plus il en fait, plus il en veut. Et c'est plus supportable. Les milliards qui ont été réalisés par les salariés, il faut qu'ils servent à l'embauche, il faut qu'ils servent à travailler mieux, moins longtemps. Les plans sociaux suivent l'un derrière l'autre, c'est plus tolérable, il faut vraiment y mettre un coup d'arrêt aujourd'hui.
Au niveau de Séralep, dans les dernières années, comment vous expliquez que les groupes se soient passés cette entreprise, qui quand même à un moment était assez rentable ? Vous disiez on avait calculé autour de 13%. Comment ça se fait que cette entreprise passe d'un groupe à un autre ?
Ce que je comprends pas, c'est qu'un groupe aussi riche que PPCI ait le droit de déposer un bilan d'une de ses filiales, puisqu'en fait, les licenciements et tous les fournisseurs qui éventuellement n'ont pas été payés, ou s'ils l'ont été, ont été aux frais du contribuable, alors que vous avez à côté de ça une entreprise très riche, qui a des actionnaires immensément riches, qui s'appelle Riverside, qui s'est réinstallée très très vite à Vienne, en Slovaquie et ailleurs, qui a reconstitué d'autres outils de production, avait largement les moyens de prendre en charge l'arrêt d'activité de Séralep. Ces fonds de pension ont une attitude qui est à la limite de l'acceptable. Et ils s'excitent d'ailleurs chaque fois qu'il y a un licenciement ou un plan de licenciement. C'est pour eux, c'est une espèce d'orgasme, c'est fantastique. Donc c'est prendre son pied, tout de suite l'action va monter. Sur le plan humain, c'est inadmissible. C'est surprenant d'ailleurs que les politiques n'aient pas mis le haut là sur les plans de licenciement économique comme on les traite aujourd'hui. Aujourd'hui, Nestlé se pose des questions sur Perrier, non pas parce que Perrier perd de l'argent, mais parce que c'est un peu moins profitable qu'ailleurs. Si on analysait bien, on a pu comprendre que c'était ce qui était passé chez Danone avec Lu. Lu était un peu moins profitable que le reste. Donc, pratiquement, il devrait y avoir des lois qui l'interdisent.
Le mécontentement général face au licenciement massif du groupe Danone, malgré ses bénéfices énormes. La seule arme pour embêter vraiment les multinationales reste le boycott. Bah, qu'est-ce que vous faites là?
Quoi? Ça vous étonne, Bob, qui mange un yogourt? Ah, c'est un Danone, je les adore. Ce moelleux, cette onctuosité, c'est parce que c'est fait grâce à des ch'tines ouvriers licenciés.
Vous êtes odieux.
Ce que je préfère, c'est tout au fond, une épaisse couche de bénéfices. Il y en a qui mélangent, moi non. J'aime pas quand mes bénéfices, ils ont un goût de nouvrier. Bah, Danone.
Vous pensez qu'il y a quasiment une concurrence à celui qui fera le plus de licenciements aujourd'hui?
Je pense que c'est 10% de chômeurs qui existent depuis 20 ans, ils doivent intéresser quelqu'un. Il y a quelqu'un que ça arrange là-dedans. Il y a des gens qui se désolent, tous les jours on en parle. Revenons aux amis de Séralep, les plus gros donateurs sont des commerces de Saint-Vallier, ont compris intelligemment et généreusement que c'était aussi l'intérêt de tout le monde que Séralep vive. Donc un des plus gros donateurs, c'est l'Intermarché qui est à 100 mètres de chez nous ici dans le nord de Saint-Vallier. Un des plus gros donateurs, c'est le garage Renault qui est à côté de chez nous. C'est pas neutre, c'est à la fois des gens généreux, mais c'est à la fois des gens qui intelligemment se sont dit « mais si on ferme là, de toute façon, ben, ils achèteront plus, ou ils achèteront deux fois moins ». Ce qui est surprenant, c'est que le MEDEF fasse pas cette approche. Le MEDEF devrait se dire, surtout ne licencions pas chez Y, parce que demain, je vais licencier chez X. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression de dire, ah, vas-y, Y, vas-y, licencie, tu te porteras bien mieux, et X suivra ton exemple. Moi, ça me désole.
Alors, vous dites, il doit y avoir des gens à qui ça sert, qu'il y ait 10% de chômeurs depuis 20 ans. Vous pensez que ça sert à qui?
Je pense que ça donne pour un certain nombre d'employeurs une possibilité de jouer négativement sur le marché de l'emploi. Quand je dis négativement, moi je vois, j'ai quatre filleuls. Il y en a un qui est chômeur, ils ont à peu près 25 ans, un qui a un stage, un qui a fait de l'intérim et un qui a un CDD. Aucun n'a un CDI, comme si le CDI avait disparu du marché du travail. C'est des jeunes de 25 ans, on leur donne déjà une image bizarre de l'entreprise, et maintenant on s'est mis à jouer avec ce marché du travail qui est facile, hein, y a plein de monde qui est là, qui accepte des postes qu'ils n'auraient pas acceptés certainement à une époque par rapport à leur formation, et surtout qui accepte des conditions de travail qui sont moyennes. Et comme vous pouvez voir, les revendications sont quand même très minimes, hein, parce que je pense qu'on est devenu un peu peureux, et que ce marché du travail à 10%, et je pense qu'il y a un certain nombre de patrons qui s'arrangent.
Donc ça veut dire que finalement, ces 10% de chômeurs, ils contribuent à imposer un silence au mouvement social.
Ces 10%, le chômeur, bah, il contribue à imposer un marché du travail où il y a quelqu'un qui souffre, c'est celui qui cherche du travail, et quelqu'un qui est parfaitement à l'aise pour proposer des salaires moins forts qu'avant, ou pour freiner au maximum des revendications, c'est vrai. Je pense qu'on ne propose que des CDD, presque de nos jours.
Voilà, et c'est pas, si vous arrivez, c'est pas un syndicaliste qui parle, et c'est pas un chercheur, c'est pas un intello, quoi qu'il, c'est pas pour autant qu'il est ignorant de tout, c'est Dominique Artaud qui est actuellement directeur de Séralep, mais qui est qui est aussi ex-directeur général de Coca-Cola. Donc voilà, des points de vue aujourd'hui, la mondialisation heureuse, avec un point d'interrogation, vue par les patrons et vue aussi par un économiste différent, Frédéric Lordon.
Et on a presque l'impression qu'il y a une solidarité qui se crée entre les ouvriers, y compris leur représentation syndicale, y compris par exemple des élus de la CGT et ces patrons paternalistes.
Le paysage conflictuel s'est enrichi d'un nouvel acteur qui est le capital financier. Pendant les années fordiennes, la finance était tellement en retrait qu'on avait l'impression que le conflit structurant du capitalisme était celui qu'avait décrit Marx, c'est-à-dire celui qui oppose le patron, l'entrepreneur au salariat. Désormais, c'est un jeu à trois acteurs. Le capital financier est revenu en force dans le paysage, et désormais, ce sont trois acteurs qui sont en interaction. Le capital financier, le capital industriel et le salariat. Alors, quand bien même rien n'effacera le conflit structurant entre le capital industriel et le salariat, il est absolument évident que l'arrivée du capital financier comme acteur extrêmement puissant et même comme acteur hégémonique rebat complètement les cartes. existe des possibilités maintenant d'alliance objective entre deux des acteurs qu'on croyait les plus irréductiblement opposés, à savoir le capital industriel et le salariat. Car en effet, l'entrepreneur et les salariés sont du même côté de la barrière face au capital financier. Voilà, c'est un des grands paradoxes de l'époque.
Les critiques contre le capitalisme sont d'habitude émises par des syndicalistes, par l'extrême gauche, par les communistes. Et là, ce qui émerge, c'est une critique du capitaliste par des capitalistes, par des patrons. Il y a 10 ans, on n'aurait pas imaginé ce type de discours.
Non, en effet, c'est tout à fait inédit. C'est un fait de grande ampleur politique, à mon avis. Effectivement, il n'y a pas que les syndicats, les salariés, les partis de gauche, je veux dire de vraie gauche, à soutenir cette critique-là du capitalisme, dans laquelle arrivent désormais des acteurs tout à fait inattendus. Si ceux-là même qui sont supposés être les soutiens du système entrent en rébellion avec le système, alors c'est que le système ne va pas bien du tout.
Il y a des mots qui sont employés, qui sont requins, ils ont des orgasmes quand il y a des licenciements. Il y a un vocabulaire qui devient extrêmement dur.
Le propos le plus radical est tenu à l'image dans le film de Gilles Perret. C'est ce chef d'entreprise qui décrit ses relations avec ses grands donneurs d'ordre en faisant une référence historique à des époques et des régimes dans lesquels les vrais commanditaires de la violence la faisaient exécuter par d'autres. De qui parle-t-il ? Il parle du nazisme. Enfin, il faut se rendre compte de l'événement politique que c'est qu'un chef d'entreprise soit allé chercher la référence historique du nazisme pour donner à percevoir l'intensité de la tyrannie concurrentielle. C'est quand même quelque chose d'énorme, je trouve.
Vous avez vu ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout retiré, l'argent, tout de suite, puis ils ont coulé. C'est-à-dire, on pompe sur l'entreprise, évidemment, après, ça résiste pas. Hein. Dans le fond, je crois qu'ils n'avaient pas de grande vue, même s'ils coulaient après, c'était pas leur... je pense que c'était pas leur problème.
Eux, c'est du résultat tout de suite, et ils s'en foutent, ils foutent le camp, ils s'en foutent des salariés et tout.
Le MEDEF devrait se dire, surtout ne licencions pas chez Y, parce que demain, je vais licencier chez X. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression de dire, ah, vas-y, Y, vas-y, licencie, tu te porteras bien mieux, et X suivra ton exemple. Moi, ça me désole.
C'est le capitalisme pur et dur, hein, là. On vient, on vide l'entreprise, on dégage les salariés, alors ils traitent des chiffres. Hein. Ils ne voient pas la conséquence humaine à côté.
Merci à tous. C'était un reportage de François Ruffin. Merci à Gilles Perret, à Frédéric Lordon, Dominique Artaud, Pierre Bontaz et aux décolteurs de la vallée de l'Arve. À voir donc, c'était la raison de cette émission d'aujourd'hui, le documentaire de Gilles Perret, Ma mondialisation, qui sera diffusé jeudi à 22h35 sur Arte, et puis un bouquin de Frédéric Lordon, Fonds de pension, piège à con, mirage de la démocratie actionnariale aux éditions Raison d'agir. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission là-bas sur JCU, vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures ou bien sur là-bas.org, la-bas.org. Vous avez de nombreuses émissions à écouter, dont celle-ci bien sûr, et des informations sur le documentaire que nous préparons sur Noam Chomsky, Chomsky et compagnie. À la technique, aujourd'hui, Bénédicte Roy et Antoine Viossa. C'est Yann Chouquet et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry. Et le chef du répondeur, eh ben, aujourd'hui, c'est Charlotte Perry aussi, qui attend vos messages au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Réaction, coup de gueule, coup de cœur. 01 56 40 37 37. Eh bien, voilà le moment tant attendu de la réclame.